Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Hein, je suis flatté. Alors, en introduction, je vais reprendre un peu des choses qu'a dit Olivier. D'abord, la guerre d'Algérie. Si j'ai choisi cette date, c'est pas un hasard. Hein, 21 mars, c'est parce que c'était la date la plus proche du 19 mars. Et le 19 mars a été célébré pour la première fois à Rouen autour du nouveau mémorial que vous voyez là en haut à gauche, hein, qui a été inauguré en février, comme tu le disais. Et je vous ai mis en introduction des affiches de la commémoration, hein, donc des affiches de différents endroits, Paris, une petite commune de la banlieue parisienne aussi. Et je les ai mis pour vous montrer que c'est une commémoration chargée d'histoire. Vous voyez, chacune de ces deux affiches a mis des extraits de journaux, hein, des photos d'époque, des affiches d'époque. Hein. Donc comme si, maintenant, pour la guerre d'Algérie, il s'agissait de revenir à l'histoire et donc de surmonter un peu les mémoires souffrantes, hein, pour aller vers l'histoire. Donc vous voyez, la journée du 19 mars nous renvoie à l'histoire. En introduction toujours, ça c'est une évidence aussi, vous savez bien que la guerre d'Algérie est omniprésente dans l'actualité. Il suffit de se rappeler de la dernière campagne électorale. Je vous ai mis quelques-unes de journaux. Le président Macron, mais aussi Marine Le Pen, avait beaucoup parlé de la guerre d'Algérie autour de notions comme les crimes contre l'humanité. Et en cette année, il y a deux mois, le Conseil constitutionnel a aussi pris une décision pour indemniser les victimes de la guerre d'Algérie. Donc vous voyez, on a l'impression que cette guerre d'Algérie est vraiment omniprésente dans la politique française de 2018. Et c'est parce que, comme le disait très bien Olivier, d'une certaine manière, elle n'est pas terminée. Troisième chose de l'introduction, c'est une mémoire aussi, la guerre d'Algérie. Et on reparlera bien de la différence entre histoire et mémoire. C'est une mémoire omniprésente sur tout le territoire français. Donc c'est une mémoire monumentale, vous le voyez ici. Donc là, vous avez une photo de l'inauguration du mémorial de Rouen du 1er février 2018. La Seine-Maritime était un des derniers départements qui ne comptait pas de mémorial à la guerre d'Algérie. Et puis à côté, je vous ai mis, alors quelque chose qui est plus clair dans mon livre, ça va sans dire, je vous ai mis des extraits de manuels scolaires avec les références de pages pour voir, puisque vous savez que la question de la mémoire de la guerre d'Algérie est au programme de terminale, hein, donc c'est une mémoire scolaire, et la plupart des manuels utilisent l'entrée de la commémoration pour parler de la guerre d'Algérie. Donc ça me semble une entrée pertinente pour parler de la mémoire de la guerre d'Algérie. Et puis Olivier avait un petit peu, sans le vouloir, marché sur mes brisées, puisque en introduction, je voulais aussi dire qu'il y a on est un des rares pays qui a un haut commissariat aux commémorations nationales, hein, je crois qu'on est même le seul pays au monde, qui publie tous les ans une anthologie des commémorations officielles à faire pour le pays. Et en 2016, j'avais dénombré 86 commémorations, en plus des 15 commémorations annuelles de la France. Donc vous voyez, tous les ans, il y a une centaine de commémorations. Et en bas, vous ne le voyez pas très bien, mais vous savez que cette année, il y a eu une grande polémique sur les commémorations à propos de la commémoration de Maurras. Donc vous voyez qu'on est un pays, comme le disait Olivier, qui aime beaucoup les commémorations, que ce soit dans l'espace public, que ce soit à l'école, que ce soit dans les espaces officiels. Et en plus, comme vous le voyez en haut à gauche, on a une tradition, la France républicaine, comme disait Olivier, a une tradition de commémoration nationale extrêmement ancienne. Je vous ai mis une représentation du 1er 14 juillet en 1880. Il faut bien comprendre qu'en France, la République s'est construite à travers l'école, certes, mais aussi à travers les commémorations. C'est-à-dire que les commémorations devaient être une sorte de catéchisme national, comme dit un collègue, pour apprendre à tous les Français, surtout à la fin du XIXe siècle, qui ne savaient pas tous lire et écrire, les valeurs civiques de la République. Donc on a pris cette habitude de commémorer à des fins civiques. Et la commémoration de la guerre d'Algérie rentre dans ce cadre. Et puis une dernière chose, si vous allez sur le site de tous les ministères, vous verrez bien que les différents ministères, la direction de la mémoire, etc., insistent bien sur le fait que les commémorations doivent transmettre les valeurs de la République. Donc vous voyez bien qu'on a une spécificité, on a un rapport spécial à la commémoration, et ces commémorations peuvent aussi provoquer souvent des manifestations, mais nous en reparlerons. Et puis, il faut toujours garder en tête en introduction que nous sommes le pays au monde où il y a le plus de commémorations officielles. En tout, il y a 15 journées nationales ou fêtes nationales en France. Sur ces 15, vous en avez 11 qui sont consacrées à des mémoires de guerre. Le 11 novembre étant le plus connu. Et sur ces 11 qui sont consacrées à des mémoires de guerre, vous en avez 3 qui sont consacrées à la seule guerre d'Algérie. Le 25 septembre, on en reparlera, le 5 décembre et le 19 mars. Et le problème, c'est qu'aucune de ces 3 dates ne fait consensus. C'est pour ça qu'on a des manifestations, par exemple, le 19 mars, comme ici à Valence. Donc, vous voyez, on commémore beaucoup en France, à des fins civiques, on commémore beaucoup les mémoires de guerre, mais pour la guerre d'Algérie, eh bien, on n'est pas arrivé à un consensus. Donc, il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi on n'arrive pas à commémorer, entre guillemets, sereinement, la mémoire de la guerre d'Algérie. La raison, vous allez le voir, c'est parce que ça renvoie à des choses enfouies, ça renvoie à un passé colonial, à une mémoire postcoloniale, mais je dirais que ça renvoie aussi à la question de l'identité nationale. Qu'est-ce qu'est la France à travers ces commémorations ? Donc je vous propose de commencer d'abord par partir du point de départ, c'est-à-dire des mémoires qui ne sont pas l'histoire. On est bien d'accord que la mémoire, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose de passionnel, c'est quelque chose de sélectif, ce que n'est pas l'histoire, d'accord ? Donc on va partir des mémoires de la guerre d'Algérie pour comprendre pourquoi c'est difficile de commémorer un événement pareil. Alors, le premier obstacle à une sereine commémoration de la guerre d'Algérie, je dirais, il tient d'abord à la nature du conflit. Qu'est-ce que c'est que la guerre d'Algérie ? C'est une guerre dont on a tué le nom pendant longtemps, jusqu'en 1999, c'est une guerre quand même qui fait 30 000 morts à peu près côté français. Donc je vous ai mis une photo d'un combattant blessé qui va bientôt mourir, c'est extrait du fond de l'ECPAD, qui a d'excellentes photos sur la guerre d'Algérie. Donc ça a fait 30 000 morts à peu près, j'entends par mort les soldats, 30 000 morts, des milliers de traumatisés, y compris les soldats qui sont traumatisés, qui sont soignés pour troubles mentaux. C'est une guerre dans laquelle l'usage de la torture a été effectif. Tous les historiens sont d'accord là-dessus. Donc c'est une guerre qui renvoie à des choses évidemment difficiles. C'est une guerre qui porte ce qu'on appelle en histoire une mémoire vive, qui empêche un peu toute historicisation. Et cette mémoire vive, cette mémoire souffrante, explique aussi qu'on instrumentalise la mémoire de la guerre d'Algérie. Et cette instrumentalisation va la rendre très difficile à commémorer. Alors évidemment, si on compare à d'autres guerres qu'on commémore, c'est très délicat, la commémoration de la guerre d'Algérie. Parce que qui dit commémoration d'une guerre dit consensus. Consensus sur quoi ? Sur une date. Mais aussi consensus sur ce qu'est la guerre. Alors prenons l'exemple de la guerre de 14-18, dont on fête le centenaire pour la dernière année cette année. La guerre de 14-18, je vous ai mis un timbre commémoratif de l'anniversaire de la victoire de Verdun, commémorer la guerre de 14-18, c'est pas compliqué. On a une date qui fait consensus, le 11 novembre à 11h, on arrête les combats. On a des belles épopées, on a des victoires, tout simplement, qui peuvent servir de point d'appui à une commémoration. Mais pour la guerre d'Algérie, on n'a pas de date qui fasse consensus. Et on n'a surtout pas de victoire. Pas de victoire au sens victoire glorieuse, victoire emblématique. Donc vous voyez, on a déjà un petit problème par rapport aux autres commémorations de guerre. On n'a pas le temps, mais je pourrais faire la même chose pour la Seconde Guerre mondiale. Pour la Seconde Guerre mondiale, on a des dates bien identifiées, que ce soit le débarquement, que ce soit le 8 ou le 9 mai, que ce soit la libération de Paris. On a des dates glorieuses, donc c'est facile de commémorer. Mais tout ça, on ne l'a pas pour la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, ne l'oublions pas, c'est une défaite. C'est une défaite. Alors, on reparlera du concept de défaite militaire ou pas, mais ça, c'est autre chose. C'est une défaite pour l'État français. Donc, c'est difficile de commémorer une défaite. On commémore des choses glorieuses. La seule défaite qu'on ait vraiment commémorée en France, c'est la guerre de 70. Mais on l'a commémorée parce qu'elle était porteuse de la revanche. Ce qui n'est pas le cas pour la guerre d'Algérie. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Pas de consensus, pas de récit national glorieux. Pas de mémoire unifiée, une mémoire brûlante, donc une impossibilité de commémorer sereinement. Alors si on descend maintenant au niveau des protagonistes de la guerre d'Algérie, le problème est encore plus complexe. Parce qu'il faut qu'on parle des mémoires des individus. Alors évidemment, je me place du point de vue français. Donc j'exclus la mémoire algérienne, hein, qui est aussi un des chapitres qu'on doit étudier en terminale. Mais c'est un autre objet d'étude. Alors, moi, je me suis spécialisé dans les commémorations en France. Donc, les mémoires de ceux qui participent à la guerre côté français. Alors, ces mémoires côté français, on va voir qu'elles sont toutes traumatiques. Et c'est difficile de s'appuyer sur un traumatisme pour commémorer. Alors, le traumatisme initial, celui dont il faut parler d'abord, chronologiquement et par rapport à la nature de ce qu'est la guerre d'Algérie, c'est le traumatisme des soldats. Et il faut commencer par parler de la mémoire des soldats qui étaient là les premiers, c'est-à-dire essentiellement les engagés, les militaires professionnels. Ceux-là sont présents en Algérie depuis bien longtemps, hein, depuis la fin du XIXe siècle, en nombre, on va dire. Et si on prend la guerre d'Algérie, pour ses engagés, comme pour les historiens d'ailleurs, la guerre d'Algérie commence en 1945, hein, avec les massacres de Sétif et de Guelma. Alors, dès cette date-là, les engagés qui sont là, les appelés sont là, mais en très très petit nombre, les engagés voient tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Les effectifs sont insuffisants. 50 000 hommes, dont la moitié seulement sont opérationnels. Les problèmes du nationalisme algérien sont sous-évalués. Hein, rappelez-vous la fameuse phrase du général Duval, après Sétif et Guelma, elle est très connue, « Je vous ai donné la paix pour 10 ans. Si la France ne fait rien, avant 10 ans, tout recommencera en pire et de façon probablement irrémédiable. » On peut dire que l'histoire lui a donné raison. Bien, donc, il y a ce problème d'effectif. Deuxième problème, pour ce qui va construire la mémoire des engagés, très vite, il développe l'idée d'un abandon par la métropole. Voilà, on nous abandonne. Les politiques nous abandonnent, et c'est là-dessus qu'ils vont construire leur mémoire, d'autant plus que ces engagés se sentent comme investis d'une mission en Algérie. Garder à tout prix l'Algérie française. Garder à tout prix et par tous les moyens. Parce que souvent, ces engagés qui sont là reviennent d'une autre guerre qu'ils ont perdue, la guerre d'Indochine. Et ils reviennent, quelques-uns sont même transférés directement d'Indochine en Algérie. Ils ne repassent même pas par la métropole. Et ils reviennent en se disant « plus jamais ça ». On a été battu en Indochine par une armée révolutionnaire, non conventionnelle, etc. Là, on ne sera pas battu. Et si on gratte un petit peu, il y a aussi derrière le souvenir du traumatisme de 40. Il ne faut jamais oublier, quand on parle de la guerre d'Algérie, la proximité de la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, battu en 40 en 6 semaines, rebattu en Indochine et encore plus récemment, humilié pendant l'expédition de Suez, où victoire militaire il y a eu, mais les Franco-Anglais ont été obligés de se replier sous la pression des deux grands. Donc vous voyez, ce sont des gens amers qui ont appris ce qu'est la guerre révolutionnaire en Indochine et qui se disent qu'ils vont utiliser les mêmes méthodes en Algérie pour remplir ce qu'ils appellent leur mission, c'est-à-dire garder l'Algérie française. Certains pensent même qu'ils sont l'avant-garde de la chrétienté au Maghreb et qu'ils doivent faire face à la subordination islamique. D'autres pensent qu'ils sont l'avant-garde du libéralisme face au communisme, incarné par Nasser, qui soutient le FLN. Donc vous voyez, ils ont plein de raisons, ces engagés, pour penser qu'ils ont une mission, une sorte de mission sacrée, garder l'Indochine. Chal, Bijar, Massu, tous ces généraux reviennent directement d'Indochine. Et bien sûr, ce sentiment d'être laissé pour compte par la métropole qui ne comprend pas les problèmes est renforcé évidemment par le grand traumatisme de Gaulle. De Gaulle incarne pour eux la trahison. De Gaulle revient au pouvoir grâce à eux en grande partie. Un an après, il annonce qu'il va céder à l'autodétermination algérienne. Donc vous voyez, ce sentiment d'être incompris est renforcé par le revirement de De Gaulle. Bien, on peut dire qu'ils pensent qu'ils sont trahis. Ils sont aussi trahis, pensent-ils, par ces civils, en règle générale. Ces civils qui ne couvrent pas la torture. On en parle un peu trop en métropole, on les critique un peu trop. La torture, hein, comme dit une directive de Massu en 1959, c'est une simple méthode de coercition. Donc là, ils ont l'impression qu'on ne les comprend pas. Ces civils. Et puis, bien sûr, ce sentiment de trahison, c'est ce qui expliquera tout ce qui va se passer en Algérie, hein. Les barricades d'Alger en janvier 60, le putsch de 1961, auquel de nombreux engagés participent, hein, c'est né de cette frustration, hein, de ce sentiment de trahison. Et puis, un certain nombre vont même verser dans l'OAS. Un certain nombre, pas la majorité, bien entendu, mais un certain nombre vont verser dans l'OAS qui entre en guerre contre la République. Donc, vous voyez, c'est difficile de construire une mémoire positive sur autant de ressentiments et d'impressions de trahison. Alors maintenant, passons aux autres militaires, les appelés. Mais vous comprenez pourquoi j'ai commencé par les engager, ils étaient là avant. Alors les appelés, certains étaient déjà en Algérie avant la guerre d'Algérie, on pouvait faire son service militaire en Algérie. Alors les appelés, ce qui est intéressant, c'est que très vite, ils deviennent beaucoup plus nombreux que les engagés. 450 000 hommes au plus fort de la guerre. Au total, entre 52 et 62, 1 343 millions d'appelés ou de rappelés, hein, vont faire la guerre, en plus des 407 000 militaires d'actifs. Donc vous voyez que les appelés et les rappelés constituent 75% du contingent qui se bat en Algérie, qui ne fait pas la guerre, qui participe au maintien de l'ordre en Afrique du Nord, qui participera ensuite à la pacification, mais qui ne participe jamais officiellement à une guerre. Alors ces appelés, si nombreux, beaucoup plus nombreux que les engagés, qui sont-ils? Moi, je vous ai mis quelques photos qui me semblent intéressantes. Hein, ce qui frappe sur ces photos, hein, pensez aux deux photos en couleur, c'est leur jeunesse. Regardez le gamin d'en bas, il est tout jeune. Donc ce sont des jeunes hommes, 18-20 ans, ceux que Benjamin Stora appelle, d'une très belle expression, la génération Djebel. Eh bien ces hommes jeunes, souvent, qui travaillaient déjà, on est dans les années 50-60. Les études ne sont pas aussi longues. Beaucoup de gens trouvent du travail à la sortie de l'école. Donc, ils sont souvent insérés dans un réseau de sociabilité. Et du jour au lendemain, ils abandonnent leur vie métropolitaine. Ils abandonnent tous leurs repères pour 18 à 30, voire 34 mois de guerre d'Algérie. Souvent avec une seule permission pendant toute cette durée. Donc, ils partent évidemment sans expérience du combat. Mais beaucoup plus important, ils partent sans expérience de l'ailleurs. On est dans les années 50-60. Les gens, les jeunes n'ont pas quitté la métropole. On ne voyage pas autant qu'aujourd'hui. Souvent, ils n'ont même pas quitté leur département. Ils sont allés ailleurs en France quand il y avait des colonies de vacances. Mais ils ne connaissent pas l'ailleurs. Ils ne connaissent pas l'altérité. Et donc, cet ailleurs, ils ne le connaissent que parce qu'on leur a appris. Et qu'est-ce qu'on leur a appris de l'Algérie ? On leur a appris ce que l'école, il y a une très belle exposition au musée de l'éducation à Rouen, que ce que l'école leur a appris. C'est-à-dire que l'Algérie appartient à la France et que les Arabes sont tous plus ou moins des gens feignants qui ont besoin de l'aide française pour progresser. Donc vous voyez, ils sont en quelque sorte dans les préjugés de ce que Blanchard appelle la culture coloniale de l'époque. Et un de leurs instructeurs, vous savez, ceux qui les accueillent en Algérie, hein, explique très bien. Les hommes qui sont placés sous nos ordres, dit cet instructeur, il était lieutenant, touchent encore à l'enfance. Leur corps, leur cœur et leur esprit exigent beaucoup de sollicitude. Donc, ils sont mal préparés. Ils découvrent ce pays si lointain et ils découvrent l'horreur du combat, l'horreur de la torture, l'horreur de l'embuscade. L'horreur de la mutilation et de la mort anonyme. Je vous cite un jeune appelé. C'est la première fois, alors que je n'avais que 18 ans, que j'ai vu des hommes avec leurs couilles dans la bouche. Voilà ce qu'ils découvrent. Ils arrivent du fin fond de la France, de leur campagne, et ils découvrent ça. Un autre de ses amis explique. On avait tout simplement peur. Peur de se faire tuer, nous aussi. Donc le choc est immense pour ces gamins. Et, comme souvent, ils ne pensent qu'à survivre. Ils ne pensent qu'à tenir avant de repartir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, tous les témoignages que j'ai lus, hein, que j'ai eus avec des anciens soldats, ils sont tous fascinés, quand même, par ce pays. Ce soleil, cette lumière, c'est une découverte pour eux. Hein, il y en a un qui m'avait dit « je serais bien reparti là-bas en vacances ». Vous voyez. Ils ne sont pas partis en vacances, souvent. Ils sont aussi très ambivalents avec les pieds noirs. Pourquoi est-ce qu'ils sont ambivalents avec les pieds noirs ? Parce que, pour eux, s'ils sont là, c'est à cause des pieds noirs. C'est parce que les pieds noirs ont besoin d'aide. Donc vous voyez, à la fois, ils sont là pour les défendre, mais à la fois, ils regrettent d'être là, donc ils en font des sortes de boucs émissaires. Et ils ont des sentiments très ambivalents aussi, ces appelés, vis-à-vis des engagés. Ils les craignent, parce qu'ils n'ont pas les mêmes schémas mentaux qu'eux, ils sont habitués à faire la guerre, ils n'ont pas de pitié, parce que, voilà, pour des tas de raisons. Donc ils les craignent, mais en même temps, ils les admirent. Hein, souvent, ils disent, ce sont des pros, eux. Ils savent faire la guerre, contrairement à nous. Donc vous voyez, ils ont des sentiments très ambivalents vis-à-vis des engagés et vis-à-vis de la violence. Et puis, l'expérience les traumatise longtemps. Hein. Ils perdent, pour certains, une grande partie de leur humanité. Je cite encore un autre témoignage. Deux copains sont tués. Alors, changement complet. Les moutons indifférents que j'ai connus à mon arrivée, c'est le lieutenant qui parle, se transforment en loups féroces. La haine les rend capables de tout. Les hommes sont devenus des tortionnaires en puissance. Venger son copain. Donc c'est un réflexe. Certains vont adhérer, certains ne vont pas adhérer, mais il y a cette idée de la vengeance, œil pour œil, dent pour dent, et ils sont happés dans cette spirale de violence. Alors sur le terrain, ils développent aussi des obsessions, des phobies, hein, donc certains sont déjà traités en psychiatrie pendant la guerre. Hein. À leur retour, ils sont traumatisés. Hein. Un témoignage célèbre, quelqu'un qui dit « Dès que j'entendais une voiture qui faisait du bruit, je me jetais par terre, parce que j'avais l'impression qu'on me tirait dessus. » Et surtout, quand ils rentrent, ils se taisent. Ils se taisent pour rassurer la famille, comme ils se sont tus dans leurs lettres pour rassurer la famille. Ils boivent pour oublier, pendant et après la guerre. Et pendant la guerre, ils se vivent tous en intrus. Ils disent « Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce que c'est que cette guerre ?» On nous dit que ce n'est pas une guerre et on l'a fait quand même. Donc vous voyez, ils se vivent en intrus. Et donc après la guerre, c'est la même chose. Ils se vivent en intrus, ils reviennent en métropole et ils se taisent. Parce qu'en plus, la société ne veut plus entendre parler de la guerre quand ils reviennent. Donc c'est difficile de construire une mémoire consensuelle sur ce refoulement de ce que vous avez vécu, du traumatisme que vous avez vécu. Continuons la mémoire de ceux qui participent à la guerre. On est chez les militaires, donc il faut qu'on parle des harkis, bien entendu. Les harkis, 260 000 Algériens supplétifs, donc des Algériens qui travaillent, qui se battent avec les Français. Les harkis, on connaît dans l'armée française, il y en avait déjà 50 000 pendant la guerre d'Indochine. Alors, 260 000 Algériens supplétifs, des statuts très variés, GMS, etc., j'ai pas le temps de revenir là-dessus. Et 60 000 harkis au sens strict du terme. Alors, qui sont les harkis ? Souvent des paysans pauvres. Des paysans écartelés entre leur appartenance d'origine, quand même, la peur de la vengeance de leurs anciens coreligionnaires, l'angoisse pour leur famille qui pourrait subir cette vengeance, et alors qu'ils se battent pour les Français, pendant la guerre, la méfiance des Français envers eux. Ils n'ont pas, par exemple, les mêmes droits que les soldats métropolitains vis-à-vis de la sécurité sociale. Pourtant, ils font le même travail. Donc, vous voyez, ils sont vraiment écartelés en permanence. Ils se battent aux côtés des Français, ils font parfois des missions difficiles de renseignement parce qu'ils connaissent la langue, ils meurent pour l'armée française, 2 à 3 000 morts selon les chiffres. Mais ce qui est compliqué avec les harkis, c'est que leurs motivations pour s'engager du côté français sont extrêmement diverses, extrêmement complexes. Ils peuvent venir parce que leurs parents ont fait la guerre pendant les deux guerres mondiales, ils peuvent venir parce qu'ils ont peur de vengeance, parce qu'ils ont besoin d'un complément. Donc on ne sait pas très bien pourquoi ils viennent. Et donc, les Français continuent à s'en méfier, même leurs officiers. Et c'est compliqué parce que leurs officiers s'en méfient tout en voulant en faire des instruments de ce qu'on appelle la contre-propagande, héritage de la guerre d'Indochine. Ils ont aussi une réputation exécrable en métropole parce qu'on les confond avec d'autres harkis. Ce qu'on appelle les harkis de Paris. Les harkis de Paris, c'est une unité harkis, effectivement, avec un commandement harkis, ce qui n'est pas du tout le cas en Algérie, spécialisé dans la torture. Mais c'est un groupe extrêmement violent, mais très spécifique. Et donc, du coup, les Français pensent qu'ils sont tous comme ça. D'accord ? Donc, soldats médiocres pour la France, mais pour l'Algérie, traîtres. Donc, vous voyez, là aussi, écartèlement. Ils vivent donc très mal la guerre. On s'en serait douté, mais ils vivent très mal la conclusion de la guerre. avec une France pour laquelle ils se sont battus, qui refuse de les prendre en charge. Février 62, on leur assure qu'ils garderont leur nationalité française et donc que la France s'en occupera. Et puis au moment du départ, mars, avril, mai, juin, la France les rejette. Je cite le fameux télégramme du ministère de l'Intérieur. « Il faut éviter les rapatriements prématurés et excessifs, voire renvoyer en Algérie les supplétifs débarqués en métropole en dehors du plan général de rapatriement. Les promoteurs et complices de rapatriements prématurés seront sanctionnés. » Donc évidemment, comme pour le reste, la France a prévu un tout petit contingent, 10 000 hommes, et les autres n'ont pas le droit de revenir. Donc évidemment, on peut imaginer que les combattants algériens, les Algériens en général, vont très mal le supporter et donc ils vont se faire massacrer, faute de pouvoir repartir avec les Français. J'ajoute en plus que ces harkis sont instrumentalisés par tous les protagonistes du conflit pendant la guerre. Les indices, ce sont des héros qui ont adhéré à la France par conviction. On n'en sait rien. Les autres disent que ce sont des victimes de la France. Oui et non. Donc vous voyez, tout le monde, l'OAS les instrumentalise, mais même la gauche les instrumentalise en disant, vous voyez, ce sont victimes de la politique coloniale française. Donc ils ont l'impression d'être dépossédés de leur identité. Et puis bien sûr, à partir de mars 62, ils sont victimes de massacres en Algérie parce qu'ils n'ont pas pu fuir. 60 à 70 000 morts, pas les 150 000 ou le million qu'on peut lire quelquefois dans certains opuscules. Traumatisme donc du massacre à la fin de la guerre, mais traumatisme aussi... J'ai mis la carte des camps de harkis en France, traumatisme du retour en métropole. Ils reviennent dans des conditions effroyables. Ils sont parqués dans des camps dont ils ne sortent pas, Rivesaltes, Bias, Bourlastic, des camps où ce sont les instituteurs militaires qui viennent faire l'école à leurs enfants qui n'ont pas le droit de sortir, qui sont derrière des barbelés. Donc ils ont le sentiment de s'être battus pour être considérés comme des moins que rien quand ils sont en France. Ils ne se sentent ni français, on leur fait sentir, ni algériens. Donc, ils ont une double mémoire de l'abandon et de la trahison sur laquelle il va être difficile de construire un consensus pour bien commémorer. Alors évidemment, il faut qu'on passe, je vais très vite, on n'a pas le temps de commenter les documents, il faut qu'on passe à la mémoire des civils qui participent ou qui subissent la guerre d'Algérie. Alors évidemment, le groupe le plus important, ce sont les pieds noirs, les rapatriés, comme on les appellera plus tard. Alors, j'ai pas le temps de parler du nom pied noir, etc., etc. Quelques observations, quand même, sur les pieds noirs. Beaucoup de légendes, comme sur les harkis. D'abord, c'est une population beaucoup plus diverse socialement qu'on ne l'a dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Germaine Tillon, qui est pas susceptible d'être forcément favorable au colonialisme, qui, en tant qu'ethnologue, étudie ce groupe et dit, les très riches familles, il y en a relativement peu. Donc, ils sont beaucoup plus divers socialement qu'on l'a dit, mais ils bénéficient de certains privilèges. Notamment, ils sont hégémoniques dans la fonction publique, 80% de la fonction publique. Ils avaient seuls le droit de vote. Alors maintenant, il y a eu la réforme de 1947, le double collège, etc. Mais ils gardent ce sentiment que eux, vraiment, représentent la France. Donc, ils ont des privilèges, je dirais, culturels. Ils peuvent être quelquefois aussi pauvres que les musulmans, comme on disait, mais ils ont cet avantage-là. Ils sont français, ils ont le droit de vote. Donc, ça les différencie des autres. Ils ont une représentation très étrange de l'Algérie, sur laquelle je dirai quelques mots plus tard. Et pour eux, il est évident que la guerre d'Algérie, la défaite, c'est la perte de leur Eldorado. C'est la perte de leur statut privilégié. C'est la perte de leur mode de vie. C'est tout simplement la perte de la terre où sont enterrés leurs parents et leurs grands-parents. Toutes les déclarations de pieds noirs reviennent là-dessus. L'abandon du cimetière. Parce qu'ils sont nés là-bas. 80% des pieds noirs en 62 sont nés en Algérie. Donc ils considèrent que c'est leur pays. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent partir. C'est le traumatisme de l'abandon de la tombe parentale. Ils entretiennent aussi un rapport complexe avec les Algériens, un rapport entre fascination et répulsion. Tous les témoignages, alors c'est très compliqué les témoignages du pied noir, parce que c'est des témoignages tardifs, ils commencent à parler beaucoup dans les années 80, donc ils recréent quoi, leur jeunesse, et ils l'embellissent souvent. Donc on a les deux choses, on a à la fois le paradis perdu, tout allait bien, et puis en même temps tout allait bien, mais on vivait séparément. voyez, donc c'est très très compliqué. En tout cas, c'est très très ambivalent. Hein. Fascination, répulsion, on est les seuls à les comprendre, nous les Algériens, parce qu'on vivait avec eux. Alors que les hommes politiques en métropole, ils ne les comprennent pas. On en a peur en même temps, hein, parce qu'ils sont très nombreux, tout simplement. Hein. Et puis dernière chose, pendant la guerre, ils idolâtrent les militaires. Parce qu'ils ont participé en nombre, alors comme les troupes coloniales, vous me direz, hein, à la Première Guerre mondiale. Parce qu'ils participent en nombre à la libération du pays. Donc, ils idolâtrent les militaires. Et souvent, c'est ce qui explique qu'ils voient d'un bon œil l'OAS, à laquelle participent beaucoup de militaires, même si la grande majorité des pieds noirs n'a pas adhéré formellement à l'OAS. C'est très compliqué. Hein. Donc, vous voyez, ils aiment tellement les militaires que quand un général reprend le pouvoir, en 1958, c'est l'anniversaire de la Ve République, mais ils sont ravis. Parce que lui, c'est un militaire, il ne va pas les abandonner. Donc vous comprenez aussi leur amertume au moment de l'évolution de la politique gaulliste. Donc vous voyez, c'est très très compliqué, leur sentiment vis-à-vis des militaires. Eux aussi ont une réputation exécrable en métropole. Pendant la guerre, on les accuse, ben vous connaissez l'expression, hein, de faire suer le burnou. Hein, c'est de là que ça vient. Hein. On les accuse d'être tous riches, fascistes. Hein. Je vous cite un pied noir, Henri Martinez, il dit « Nous serons pour toujours, pour les métropolitains, des pieds noirs racistes, tous riches, méprisants, dotés de nombreux serviteurs arabes, vendant un franc le verre d'eau aux appelés. » C'est une sorte de légende urbaine qui est née pendant la guerre, mais qui a eu une certaine réalité aussi quelquefois. « Nous étions, nous serons pour l'éternité, l'OAS assassin, qui pourtant, bien avant de lutter contre le FLN, a surtout été en guerre contre la France et la République. » Ce qui est tout à fait exact. Voilà comment vivent la guerre, les pieds noirs. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Et bien sûr, pendant le conflit, ils sont eux aussi victimes d'attentats. Ils participent quelquefois au conflit. Hein. Ils s'engagent dans des milices. Hein. Mais ils sont victimes d'attentats, donc eux aussi ont peur de la mort, de la perte de leur statut, de l'attentat dans leur village, autour de leur ferme. Et vous avez une photo ici, leur retour est extrêmement traumatique lui aussi. Des menaces, vous connaissez, la valise ou le cercueil, slogan très ancien, hein, beaucoup plus ancien qu'on ne l'a cru. Hein. Donc un retour traumatique parce que le départ est précipité, hein, face à un gouvernement, comme pour les harkis, totalement débordé. Totalement débordé, d'autant plus que 80% des harkis rentrent en 1962. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment restés le plus longtemps possible, parce que c'était leur terre. D'accord ? Il faut les comprendre si on veut faire l'histoire de tout ça. Jox, le père de Pierre Jox, Louis Jox, dit « Mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils rentrent tous. » Donc on n'avait rien préparé. On en reparlera. Et ils ne sont pas toujours bien accueillis. Alors ils s'installent tous majoritairement dans le sud-sud-est du pays, hein, jusqu'aux Pyrénées, hein, mais ils ne sont pas toujours bien accueillis. Je cite la phrase de Gaston Defer, hein, « Français d'Algérie, allez vous faire rapatrier ailleurs, il faut les rejeter à la mer ». Donc vous voyez qu'ils ne sont pas toujours bien accueillis parce qu'ils ont cette image déplorable. Simplement, à l'inverse des harkis, ils vont beaucoup mieux s'intégrer à la France parce qu'ils ont beaucoup plus de réseaux de sociabilité, hein, mais ils développeront toujours cette rancœur, eux aussi de l'abandon, eux aussi de la trahison. Un petit mot maintenant sur l'opinion métropolitaine, la métropole. Que pensaient les Français? Alors, je lui ai mis plein de choses, hein, beaucoup de coupures de journaux. D'abord, la métropole, ce qui caractérise la métropole, c'est le refus de la guerre. Tous les sondages le montrent. Dès 1959, l'écrasante majorité des Français, 71%, pensent qu'il faut négocier. Quatre mois plus tard, après mai 59, donc à la fin de l'année, hein, ils sont 80%. Donc vous voyez tout de suite, il faut arrêter la guerre, il faut négocier. Et 60%, 59%, pensent déjà que la meilleure solution, ce serait que les Algériens se gouvernent eux-mêmes. 1959, d'accord. La métropole, c'est aussi un espace de traumatisme pour les parents d'appelés, qui ont peur que leurs enfants ne reviennent pas, soient blessés, traumatisés ou morts. La métropole, c'est l'anniversaire de mai 68, mai 68 a aussi à voir avec la guerre d'Algérie. C'est aussi un lieu d'ultra-politisation de la jeunesse à travers la guerre d'Algérie. Il ne faut jamais oublier ça. Ça joue en mai 68. C'est aussi un lieu de censure. 270 journaux et périodiques saisis en métropole pendant la guerre d'Algérie. C'est un lieu où les politiques ont des attitudes vis-à-vis de l'Algérie très fluctuantes. La France politique, au sens large, balance entre unanimement la fermeté au début de la guerre, vous vous rappelez de la phrase, hein, « l'Algérie c'est la France » de Mitterrand, tout le monde le pense. Guy Mollet, Pierre Mendès France, on garde l'Algérie française parce que ce sont des départements. Ce n'est pas la même chose que les autres colonies. Donc, fermeté au début de la guerre, trahison des idées anticoloniales de la gauche, Guy Mollet, ambivalence du Parti communiste qui vote les pouvoirs spéciaux, quand même, pour un pays, un parti anticolonial, c'est un petit peu complexe, en mars 1956, et ambivalence, bien entendu, de Gaulle, hein, dont on connaît le retournement plus ou moins assumé, plus ou moins expliqué. Un petit mot sur la métropole pour les intellectuels. C'est vraiment l'âge d'or des intellectuels, les années 60-70. Les intellectuels plaquent des grilles d'analyse sur la guerre d'Algérie qui ne sont pas toujours pertinentes. Les intellectuels s'engagent, pétition, contre-pétition pour la guerre d'Algérie. Hein, et évidemment, de droite, de gauche, etc., polémique, Aron, Sartre, je n'ai pas le temps d'en parler. Hein, mais tous ces intellectuels, globalement, ont une perception et une mémoire négative de la guerre. Soit par réalisme, quelqu'un comme Raymond Aron dit, de toute façon, c'est le vent de l'histoire. Économiquement, c'est nul, et en plus, c'est le vent de l'histoire. L'Algérie deviendra indépendante. Ou idéologique, Jean-Paul Sartre. Puis il y a des gens comme Camus qui sont entre les deux, etc. Donc les intellectuels ne comprennent pas bien aussi ce conflit. Donc vous voyez que c'est difficile, d'un point de vue étatique, de construire une commémoration sereine sur cette mémoire pendant le conflit. Tout ça est conforté, évidemment, par le fait que ce n'est pas une guerre officiellement pour l'État. Alors, maintenant, rentrons dans l'après-guerre, c'est-à-dire l'âge de la commémoration. Dès que le conflit est terminé, chaque groupe mémoriel, donc vous avez bien compris, on voit bien ce que c'est que la mémoire, c'est de l'affect, c'est ce que chacun a vécu. Ce n'est pas forcément la réalité, c'est ce qu'on sélectionne. On a tous une mémoire, mais elle est subjective. En histoire, on essaye d'être objectif. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que la guerre se termine? Que devient la parole de ceux qui ont participé ou subi la guerre? C'est d'abord la parole de ceux qui ont participé à la guerre, une parole associative. Il faut bien voir que toutes les associations de protagonistes de la guerre sont très précoces. Elles évoluent à peu près au même rythme et leur discours est extrêmement divers. Elles ont, ces associations, des visions très différentes de la guerre et très tôt, ces associations, elles sont objets de récupération politique. Très tôt, elles sont porteuses de représentations antagonistes de la guerre qui vont compliquer la question commémorative. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'en même temps, comme dirait Jupiter, comme la plupart des protagonistes de la guerre ne parlent pas, parce qu'ils sont traumatisés, les associations, elles, prennent la parole et deviennent la parole des protagonistes de la guerre. Une sorte de parole normative qui ne correspond pas forcément à l'expérience que les civils et les soldats ont eue de la guerre. Donc vous voyez, dans la mentalité collective, la parole de la guerre d'Algérie, ça va être les associations. Et il y a plein de combattants, d'appelés, etc., qui disent « Non, je ne me reconnais pas dans ces associations. » Il y a plein de soldats qui ne sont pas battus, par exemple, qui ne sont pas forcément représentés par ceux qui parlent des combats. Donc, vous voyez, ils ont ce rôle de norme, qui n'est pas forcément l'expérience. Il faut toujours différencier le discours de l'expérience. Alors, un petit topo rapide sur les différentes mémoires. Le cas le plus extrême, c'est la mémoire des anciens appelés. Je vous ai mis ici deux symboles à la FNACA, avec la main serrée, hein, qui est la première grande association, mais l'autre association, hein, l'UNC-AFN, donc l'Union nationale des combattants, hein, qui est la deuxième grande association d'anciens combattants, AFN pour Afrique du Nord, hein, de combattants de la guerre d'Algérie. Alors la FNACA, pour aller vite, hein, fondée par Jean-Jacques Servan-Schreiber en 58, donc un jeune officier pacifiste, hein, se veut de gauche plutôt, hein, mais pas que, hein, mais surtout pacifiste et partisan de la réconciliation. L'UNC Afrique du Nord, fondée en 1956, vous voyez, pendant la guerre, est plus à droite et porteuse d'une vision nostalgique un peu de l'Algérie française, d'une vision traditionnelle de la colonisation. Ce sont deux associations, à 300 000 adhérents à peu près chacun aujourd'hui, hein, qui sont de toute façon pas homogènes. Mais ce sont des associations qui s'affrontent encore en 2018 extrêmement durement pour s'arroger le monopole de la représentation de la mémoire des combattants en Algérie. Par exemple, ces associations s'arrogent toutes deux la création de la carte du combattant pour la non-guerre d'Algérie en 1974. Vous voyez quand même la chose. Carte de combattant pour des gens qui ne sont pas des soldats. C'est un peu compliqué, puisque la carte des combattants, par définition, elle est réservée aux soldats. Elle est créée en 1974, hein, donc 12 ans après la fin de la guerre. Donc ces associations se sont battues pour ça. Ça, c'est la mémoire, je dirais, la plus importante. C'est une mémoire qui se sent négligée, en plus, par la société, parce que dans ces années 70-80, hein, on ne veut plus tellement entendre parler de la guerre d'Algérie. Donc on va dire que c'est une mémoire combattante qui reste enfouie jusque dans les années 90. Un petit mot sur la mémoire des pieds noirs. Voilà encore une mémoire complexe après la guerre. Leurs associations sont aussi précoces que celles de combattants. Hein. La première est fondée en 1957. Association nationale des Français d'Afrique du Nord, d'Outre-mer et leurs amis. Mais simplement, elles sont actives un petit peu plus tard, comme pour laisser le temps à la communauté de s'organiser. Et donc, on peut dire que ces associations de pieds noirs émergent dans l'espace public dans les années 70. Le cercle algérianiste, dont j'ai mis le symbole ici, est fondé en 1973. Et ces associations revendiquent non seulement des indemnisations, mais surtout une sorte de réhabilitation culturelle. Ces associations, souvent anti-gaullistes au départ, mais pas que, sont celles qui sont les plus souvent récupérées par la droite, voire l'extrême droite. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a une sorte de malédiction à être pied-noir algérien, parce que vous êtes souvent, que vous vouliez ou non, récupéré par la droite et surtout par l'extrême droite. Or, on peut très bien être pied-noir et républicain. Il y a des tas de rapatriés qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Mais ils sont comme phagocytés par cette récupération politique. Non, ils ne sont pas tous d'extrême droite. Et oui, ils peuvent être nostalgiques. Oui, ils peuvent être victimes de ce qu'on appelle la nostalgérie. Or, c'est une expression, la nostalgérie, connotée d'extrême droite. Parce qu'on pense toujours à des gens comme Ménard et autres. Mais on peut être nostalgique sans être d'extrême droite. On peut être nostalgique de sa jeunesse. Tout simplement, on peut être nostalgique du temps où on était en Algérie sans être forcément un anti-républicain. Plus on vieillit, plus on est nostalgique de sa jeunesse. Donc vous voyez, c'est compliqué aussi d'être pied-noir, républicain et démocrate, parce qu'il y en a. Toutes les associations pied-noir ne sont pas de droite ou d'extrême droite. Je vous ai mis en bas une association, vous voyez, c'est celle qui s'appelle la NPNPA, hein, désolé, l'Association nationale des pieds noirs progressistes et de leurs amis, avec le symbole de la main. La main, c'est les deux côtés de la Méditerranée. C'est une association de pieds noirs fondée en 2008, mais pour la réconciliation républicaine contre l'OAS, elle est accusée de trahison par d'autres pieds noirs. Elle est accusée de trahison par l'OAS, bien sûr, alors que ce sont des gens qui ont vécu la même chose que les autres pieds noirs. Vous voyez ce que c'est que cette malédiction? Là aussi, il y a une sorte d'assignation. Il ne faut pas assigner les gens. D'accord? Bien. Le point commun de ces associations, qu'elles soient républicaines, de droite ou d'extrême droite, c'est qu'elles ont toute cette nostalgie dont je vous ai parlé. Mais cette nostalgie, elle est aussi instrumentalisée par la droite, par l'extrême droite, ou par certains maires on en reparlera en conclusion, de communes méditerranéennes, Béziers, Perpignan, Nice. Alors le cas le plus douloureux, bien sûr, c'est la mémoire des harkis. Je vous ai mis une association très récente, vous voyez, qui s'appelle Harkis l'abandon. Donc c'est une association très récente. Les harkis, parce que ce sont les plus mal accueillis, parce que ils sont, ce qu'ils étaient en Algérie, des paysans pauvres, peu alphabétisés, non reconnus par l'État. De Gaulle, juillet 62, le terme rapatrié ne s'applique évidemment pas aux musulmans, donc aux harkis. Ils ne retournent pas dans la terre de leur père. Dans ce cas, ce ne sont que des réfugiés. Vous voyez ? Des réfugiés qui sont quand même battus pour la France. D'accord ? Ils sont mis sous la tutelle de l'État dès qu'ils arrivent, dans leur camp, dont je vous parlais. Ils créent des associations, mais ce sont des associations officielles. Comité national pour les musulmans français, 62. Association des musulmans de France, 62. Donc, des associations officielles qui vont travailler avec l'État pour prendre en charge ces harkis peu alphabétisés. Donc, leur mémoire est encore plus enfouie, encore plus niée, et elle n'émerge que dans les années 70-75, quand les plus jeunes, la deuxième génération, lisez le bouquin d'Alice Zénitaire, quand les plus jeunes se révoltent, quand ils en ont assez de vivre soit encore dans des camps, soit dans des immeubles dégradés. Ils se révoltent, ils occupent l'église de Dreux, ils occupent la cathédrale de Chartres, etc. Ils font des grèves de la faim et ils entrent dans l'espace public. Vous voyez, c'est la deuxième génération qui rentre en guerre. Et à partir de ce moment-là, dans les années 70, nouvelle génération d'associations beaucoup plus revendicatives, qui obtiennent un début de reconnaissance de l'État français par la loi de juin 1994, dont on dira un mot tout à l'heure. Et évidemment, ils sont aussi victimes de récupération. Ils ont été trahis, disaient les gens d'extrême droite, par la République, par la gueuse. Donc vous voyez, eux aussi sont instrumentalisés. Mais c'est parce que le terrain est favorable, parce que c'est une mémoire traumatique et souffrante. Ils sont récupérés parce que l'État, pendant longtemps, n'a pas reconnu ce qui leur arrivait, a même nié quelquefois leur mémoire dans les années 70-80. Il y a d'autres mémoires sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. Il y a même une mémoire en bas à droite, regardez la médaille, une mémoire de l'OAS. L'OAS crée ses médailles, vous voyez, il y a une association qui s'appelle la DIMAD, qui est une association de nostalgiques de l'Algérie française, fondée en 67, qui est du côté des putschistes et des terroristes, qui est l'héritière de ceux qui voulaient abattre la République. Ils ont leur petite cérémonie, avec d'autres dates, on va en parler tout de suite, mais ils remettent des médailles, comme les autres. C'est une mémoire qui assume la torture. On n'a pas le temps de parler de la torture, mais la torture, c'est l'exemple même de ce qu'est une mémoire. Vous avez un même fait, la torture par l'État français, et la torture, je connais le FLN, c'est aussi une évidence, mais ce n'est pas le même registre. Parce que le FLN, ce n'est pas un État constitué appuyé sur les droits de l'homme. Toute la différence. Il y a eu de la torture, un même fait, mais vous avez des généraux qui ne disent pas la même chose. Vous avez des généraux qui le reconnaissent, Massu, qui dit même on aurait pu faire autrement. Vous avez Ossarès, qui écrit un livre, vous verrez l'image tout à l'heure, dans lequel il raconte qu'il a torturé, pourquoi il a torturé, pourquoi il assume, etc. Et puis vous avez des gens qui, jusqu'à leur dernier souffle, qui ont fait les mêmes choses que les autres, qui ont vécu les mêmes choses, qui étaient en Indochine et en Algérie, comme Bijar, qui jusqu'au bout dira « il n'y a jamais eu de torture en Algérie ». Vous voyez ce que c'est que la mémoire ? Deux mémoires divergentes pour un même fait. Ce n'est pas le cas de l'histoire. Nous, on essaye de comprendre. Et puis, bien sûr, pensez qu'en 2002, il y a eu un livre blanc de l'armée française, fait par des généraux, mais pas reconnu par le ministère de la Défense. Donc, hors initiative officielle, qui disent « il n'y a jamais eu ». De mémoire, de torture pendant la guerre d'Algérie. En 2002, il le disait encore. Et les collègues qui travaillent sur la torture pendant la guerre d'Algérie reçoivent régulièrement des menaces de mort. Donc vous voyez que c'est un problème complexe, sur lequel on n'a pas tellement le temps de parler. Alors, mémoire complexe pendant la guerre, mémoire complexe après la guerre, des mémoires qui sont aggravées par le fait que, pendant 40 ans, la République française nie l'idée de guerre, comme le disait Olivier. On ne parle pas de guerre, on parle d'euphémisme comme opération de maintien de l'ordre, etc. Donc comment voulez-vous commémorer une guerre qui n'existe pas ? Déjà, les mémoires sont complexes, mais en plus, elles n'existent pas. Ce déni a été aggravé par la politique de l'État, la politique de l'amnistie. L'amnistie est comprise dans les, on n'a pas le temps d'en parler, dans les accords d'Évian. Et l'amnistie des crimes commis pendant la guerre d'Algérie, elle est autant de droite, 64, 67, 68 surtout, quand elle réhabilite les responsables du putsch et de l'OAS, quand on libère les derniers prisonniers, quand on rend les décorations aux militaires, y compris ceux qui ont voulu abattre la République, mais elle est aussi l'amnistie de gauche, la fameuse amnistie de Mitterrand de 1982, hein, qui ouvre les droits à la retraite des généraux putschistes et exilés, qui ne passe à l'Assemblée nationale que grâce au 49-3, soit dit en passant, puisque la moitié de son gouvernement voulait démissionner à Mitterrand, en disant « il est hors de question de réhabiliter des traîtres à la République ». C'est passé grâce au 49-3. Donc amnistie de droite comme de gauche, et amnistie qui continue. Puisque dans la loi Mekachera de 2005, hein, sur le rôle positif de la colonisation, hein, eh bien, il y avait la possibilité de verser les pensions des années d'exil de ceux qui s'étaient réfugiés, notamment en Espagne, après la création de l'OAS. Avouez que c'est un petit peu paradoxal, quand même. Donc vous voyez que c'est une politique au long terme. En plus, je vous ai mis en bas, vous voyez, François Mitterrand en Algérie, tous les partis politiques n'avaient pas trop intérêt dans ces années 80, 90 à ce qu'on parle de la guerre d'Algérie. Pensez à la gauche, enfin la gauche de gouvernement, qui était au pouvoir pendant la guerre d'Algérie. Elle doit composer avec la honte du vote de l'état d'urgence de 56, surtout quand on est le Parti communiste, avec l'acceptation tacite de la torture, qui était garde des Sceaux pendant la guerre, c'était François Mitterrand, avec la question complexe qu'a évoquée Olivier des porteurs de valises. La droite, elle assume très mal les hésitations et les revirements gaullistes. Elle assure très mal l'impréparation des retours. Et les centristes portent le fardeau de la guerre d'Algérie. Pensez à quelqu'un comme Georges Bidault. Georges Bidault, successeur de Jean Moulin, grand résistant, qui prend fait et cause pour l'OS, qui rentre dans la clandestinité et qui s'enfuit en Espagne. Démocrate chrétien. Donc vous voyez que c'est un problème complexe pour les hommes politiques, donc on n'en parle pas. Mais ce qui est intéressant, je vous ai mis en bas la photo de l'affiche du film « Avoir 20 ans dans les Aurès », c'est que malgré cette volonté d'amnistie et d'amnésie, hein, malgré la censure, « Avoir 20 ans dans les Aurès » interdit pendant 20 ans, justement, hein, la société civile parle de la guerre. À bas bruit, à travers des ouvrages, « La guerre d'Algérie », Yves Courrière, 1966, prix Albert Londres. Même les programmes scolaires commencent à en parler très tôt. Hein, 79 au collège, 83 au lycée. Donc vous voyez que il y a une sorte de dichotomie entre l'État, qui ne veut pas qu'on en parle, mais la société qui en parle, alors que même dans les familles, on n'en parle pas. Et on travaille déjà un petit peu dessus. Bon, le moment clé, hein, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, malgré Mitterrand, je dirais, hein, et surtout les années 90. Hein, l'Institut d'histoire du temps présent, qui fait un grand colloque en 88, la France en guerre d'Algérie, les Français pendant la guerre d'Algérie. Vous voyez, c'est pas, on ne parle pas que des combats, on parle des représentations des Français. Les années 90-2000, c'est aussi les années de la guerre civile algérienne. La guerre civile algérienne, 150 à 180 000 morts. Une guerre horrible, hein, entre le Front islamique du Salut et l'armée. Et bien, cette guerre ravive le souvenir de la première guerre d'Algérie contre les Français, parce que les mêmes mots sont utilisés. Terrorisme, attentat, terre brûlée, etc. Donc vous voyez, ça provoque un retour de mémoire de la guerre d'Algérie. Et puis bien sûr, je vous ai mis un petit montage, hein, ce qui ramène la guerre d'Algérie dans la mémoire collective française, c'est paradoxalement le procès de Vichy, à travers la personnalité de Maurice Papon. Hein, Maurice Papon, donc le procès 97, hein, Maurice Papon, deux fois préfet de Constantine, 56-58, pendant le début de la guerre d'Algérie, puis préfet de police, pendant le conflit, à Paris, donc responsable de la répression du 17 octobre 1961. Donc vous voyez, on fait un procès pour complicité de crimes contre l'humanité à Papon, vous le voyez près à la préfecture de Gironde, en haut à gauche, hein, et par le biais de ce procès, revient la question de la guerre d'Algérie, parce qu'il est protagoniste des deux conflits. Et parce que, bien entendu, hein, comme pour Vichy, pour la guerre d'Algérie, il n'affirme qu'avoir fait obéissance aux ordres. On fait témoigner au procès de Papon, hein, vous le savez bien, des historiens qui travaillent sur les massacres de 1961, 200, 250 morts à Paris, on ne sait pas exactement. Et c'est au moment du procès Papon hein, qu'on a l'affaire de Louisette Illigliariz, qui écrit un ouvrage en 2000 où elle raconte qu'elle a été torturée par le général Ossarès, qui le confirmera. Donc vous voyez, ce retour est intéressant par le biais hein, de Maurice Papon, qui, ne l'oublions pas, a été aussi ministre du budget du gouvernement sous Valéry Giscard d'Estaing. Donc il faudrait aussi s'interroger là-dessus. Pour en revenir aux commémorations, parce que c'est quand même l'objet de ce propos, pendant les années où on ne parle pas de guerre d'Algérie, jusqu'en 1999, il y a des commémorations officieuses. Je vous ai mis quelques exemples, hein, le journal de l'ancienne Algérie. Donc des commémorations officieuses prises en charge par les associations dont je viens de parler. Prise en charge par toutes les associations, y compris par l'OAS. Alors qu'est-ce que c'est que ces commémorations officieuses ? Ben, vous voyez, des inaugurations de rue du 19 mars, rue de la fin de la guerre d'Algérie, etc. C'est très compliqué, il y a des problèmes sémantiques là-dessus dont je n'ai pas le temps de parler. Inauguration de monuments qui commencent dès les années 70, vous voyez. Dès les années 70, les rues, les mémoriaux, Nice, Valence, 1972, création... encore plus intéressant, de médailles par l'État. Or, les médailles, elles sont portées aux commémorations. Donc l'État fait des médailles pour commémorer une non-guerre, mais pour commémorer des combats, quand même, qu'on appelle le maintien de l'ordre. Vous voyez la schizophrénie de l'État. Donc on commémore pour des rues, on crée des premiers monuments, on fait des médailles. Bref, on a des outils commémoratifs qui apparaissent grâce aux associations. Le cérémonial de ces commémorations est tout à fait classique. Hein, présence des associations, alors ça dépend lesquelles, UNC, FNACA pour les anciens combattants. Présence des maires, hymnes, drapeaux, discours, gerbes et des chansons, hein, quelquefois sur lesquelles je reviendrai, des chansons originales sur l'Algérie. Mais je garde ça pour tout à l'heure. Et déjà, pendant ces premières commémorations apparaissent les premiers incidents des manifestations de Harkis, de Pieds-Noirs, Toulon, Perpignan, Béziers, Paris, hein, Toulouse. Donc une sorte de premier âge de la commémoration qui s'appuie aussi sur l'État. Parce qu'il n'y a pas de guerre, mais l'État, tout le monde l'a oublié, va enterrer en métropole à Notre-Dame de Lorette, s'il vous plaît, au lieu de la mémoire de 14-18, un soldat inconnu algérien, comme il y aura plus tard un soldat inconnu indochinois. Et donc, vous voyez, je vous ai mis les deux cérémonies. C'est-à-dire qu'en 77, donc sous Giscard d'Estaing, l'État fait une sorte de cérémonie nationale officielle à l'ancien combattant d'une non-guerre. Compliqué, hein. Donc, vous voyez, à gauche, le modèle, le soldat inconnu, 1920, Notre-Dame de Lorette, les tombes de 14-18, vous voyez, le drapeau à gauche porté par des soldats, le drapeau sur le cercueil sous l'Arc de Triomphe, réplique algérienne à Lorette, la même chose, le drapeau, les trois couleurs, des soldats, des unités combattantes en Algérie, hein, vous les voyez en bas. Donc on fait une sorte d'imitation du soldat inconnu de la Première Guerre mondiale pour la guerre d'Algérie, tout en disant que ce n'est pas une guerre. Et ça a eu beaucoup de retentissement. Et depuis, à Lorette, c'est commémoré tous les ans. Donc vous voyez que l'État a une attitude extrêmement ambiguë. Bon, tout change à la fin du XXe siècle. Retour de mémoire, je ne reviens pas là-dessus. La guerre est appelée la guerre. Donc là, ça y est, si c'est une guerre, dans un pays qui aime tellement les commémorations, on va pouvoir commémorer la guerre d'Algérie. Je passe rapidement sur le mot « guerre hein. ». 1999, mais il faut imaginer qu'on parlait de guerre, y compris les officiels, depuis les années 80. C'est Giscard d'Estaing qui dit il faut parler de guerre. Giscard d'Estaing. Donc évidemment, le gouvernement Mitterrand dit la même chose. Son secrétaire d'État dit il faut reconnaître officiellement l'état de guerre en Algérie en 1988. Alors, qui va lancer la vraie politique commémorative de la guerre d'Algérie? Eh bien, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, pourquoi? Parce que d'abord, il a une vraie vision de l'histoire. Rappelez-vous le discours du Veldiv. Et c'est Jacques Chirac qui va commencer par imaginer qu'il faille commémorer la guerre d'Algérie. Il est évident qu'il y a des considérations politiques. Il est évident qu'il y a un électorat à choyer, l'électorat pied-noir, l'électorat des rapatriés. Mais il n'y a pas que ça dans le cas de Chirac, mais c'est lui qui lance la politique de la commémoration. Je vous le rappelle, vous le verrez sur un petit graphique qui va passer tout à l'heure, une commémoration ardemment désirée par tous les Français. La FNACA fait des sondages depuis les années 80 qui donnent tous une majorité de 70% en disant « il faut commémorer cette guerre ». Et on en reparlera, tous les Français disent, notamment le 19 mars. Bien, Jacques Chirac, que fait-il? Il dit « pour commémorer, il faut d'abord un lieu ». D'accord, on ne va pas commémorer n'importe où. Où commémorer la guerre d'Algérie? Il n'y a pas de Victoire, il n'y a pas de Verdun, il y a... on ne va pas commémorer en France, c'est une mémoire souffrante, on ne va pas commémorer sur les ponts où on a balancé des Algériens à la Seine ou dans les bidonvilles de Nanterre. Il n'y a pas de lieu glorieux. Donc, finalement, après une réflexion lancée sous Lionel Jospin, parce qu'il y a aussi la cohabitation dont on n'a pas le temps de parler, en 1998, une commission très très large, on retient ce que vous avez en haut à droite, le Quai Branly. Bon, ce n'est pas un endroit très passant. En face du futur musée des arts premiers de Jacques Chirac. Le Quai Branly, on va construire un mémorial inspiré par le mémorial de Washington pour la guerre du Vietnam. Donc un lieu inauguré en décembre 2002, un lieu, vous voyez, tricolore, ces grandes colonnes, et un lieu très, très didactique. Mais, comme c'est l'État qui le crée, un lieu dédié aux soldats morts pour la France. Donc il y a le problème des civils qui n'est pas posé. D'accord ? Il est didactique parce qu'il y a des plaques au pied, on la voit à gauche. Il y a des plaques devant le monument, à côté, et sur les colonnes, il y a des textes. Et donc ces textes et ces plaques doivent évoquer les dates de début et de fin du conflit. Et donc c'est ce monument avec ces textes qui va lancer la polémique d'aujourd'hui, 2018, sur les dates de fin de conflit, qui impliquent les dates de commémoration du conflit. Un texte est prévu pour évoquer les morts après le cessez-le-feu. Tous les historiens reconnaissent évidemment qu'il y a eu des violences et des massacres après le cessez-le-feu du 19 mars. C'est évident. Pas un historien sérieux. Massacres horribles, des deux côtés. Et on sait qui les crée, ces massacres. L'OAS, le FLN. Tout le monde est d'accord. Mais ce n'est plus la guerre, d'un point de vue strictement officiel. C'est ça qui est compliqué. Il y a de la violence, il y a des massacres, mais ce n'est plus la guerre. Donc, un texte pour les massacres après le cessez-le-feu. Ce texte renvoie donc à des massacres emblématiques après le 19 mars. Il y en a eu deux gros emblématiques. Il y a la rue d'Isly, la fusillade de la rue d'Isly, et puis il y a le massacre de plusieurs milliers de pieds-noirs oranais le 5 juillet 62. Donc vous voyez, des massacres après le cessez-le-feu. Mais que jamais, au grand jamais, aucun historien sérieux n'a nié. Et ça, c'est la réalité. Après, il y a des gens qui vont dire « ça a été nié ». D'accord ? Donc, voilà. On va évoquer juste les morts après le cessez-le-feu. La fusillade de la rue d'Isly, c'était le 26 mars. Qu'est-ce que c'était que la rue d'Isly, c'est une cinquantaine de morts de manifestants qui manifestent pour l'Algérie française. Une manifestation organisée par l'OS, organisation interdite par le gouvernement, puisqu'anti-républicaine, manifestation interdite par le gouvernement, elle a lieu quand même, ça se termine par une cinquantaine de morts, tués par qui? Par ceux qu'on a envoyés maintenir l'ordre, c'est-à-dire des gens qui n'y étaient pas préparés, notamment des militaires de contingent. Donc c'est très violent, parce que c'est des soldats français qui tirent contre d'autres Français, mais d'autres Français souvent sympathisants de l'OS. Quand bien même, un mort, ça aurait été un mort de trop. Mais vous voyez, c'est compliqué, parce que c'est une manifestation de gens sous une bannière qui voulait renverser la République. Quand bien même, il y aurait eu des gens qui ne voulaient pas renverser la République dedans, ils étaient à une manifestation de l'OS. Vous voyez que c'est extrêmement compliqué. J'ai discuté avec des pieds noirs qui m'ont dit mais pour nous, on n'avait rien à faire, OS, renverser la République, on manifestait parce qu'on voulait garder l'Algérie française. Vous voyez, c'est aussi compliqué. Mais mettez-vous à la place de l'État, parce que c'est l'État qui organise la commémoration. On ne peut pas célébrer des gens qui ont voulu renverser la République. Vous voyez. Bon, donc voilà les deux massacres. Massacre à Oran. Alors, massacre à Oran, je n'ai pas le temps d'en parler. Beaucoup de pieds-noirs assassinés, mais bon, il y avait aussi l'OS qui avait mis de l'huile sur le feu. Bon. Et massacre de la rue d'Isly. Et puis dans le monument, on prévoit de faire une liste des militaires morts pour la France. Alors la liste, il va falloir choisir, les dates du conflit, c'est compliqué. Et puis on approche d'une date, 2002, on approche de l'élection présidentielle. Donc prudemment, le Premier ministre décide de mettre le projet en sourdine. Il est persuadé d'être élu en 2002. On verra que ce n'est pas tout à fait le cas, mais voilà. Prudence, les élections arrivent, mettons le problème de côté. Ça se passe mal pour Lionel Jospin. Chirac est réélu dans des conditions particulières. J'ai des spécialistes là-haut qui savent de quoi je parle, mes étudiants, pour ne pas les nommer. Donc Chirac est réélu, et à peine réélu, il reprend le projet. Seulement, il est débarrassé de la cohabitation, il est débarrassé de Lionel Jospin. Et donc, il dit, on va faire ce qu'on a dit, on va mettre les noms des morts pour la France. Donc, ils vont défiler sur une diode. 22 925 morts qui défilent. Le monument est inauguré le 5 décembre 2002. Là, voilà ma première date de commémoration. Comme prévu, on mentionne les dates de fin de conflit, le 2 juillet, ce qui exclut de fait les massacres du 5 juillet. Donc vous voyez que ça ne résout pas le problème. Donc les rapatriés sont furieux en disant « Mais attendez... Si on est mort, c'est à cause de la guerre. Vous pouvez dire qu'elle se termine. Pour nous, ça continue. Donc la guerre n'est pas terminée. D'accord ? Colère des rapatriés, embarras du gouvernement, parce que c'est quand même un électorat. Le gouvernement avait dit « Oui, c'est compliqué, donc on s'arrête le 5 juillet. » Et surtout, parmi les morts, on ne mettra pas les morts de la rue d'Issy avant les élections. Élections passées. Contrairement aux promesses, en mars 2010, le gouvernement Fillon rajoute les morts de la rue d'Issy sur la liste qui défile. Des civils sur un monument aux combattants, premier problème, et des civils qui manifestaient avec une organisation qui voulait renverser la République. Donc la République rend hommage à des gens qui manifestaient pour renverser la République. Je me passe du point de vue de l'État. Évidemment, ça passe très mal, et pour l'opinion publique, c'est une manière indirecte de réhabiliter l'OS. Une manière, peut-être, pense le gouvernement, de caresser dans le sens du poil, les rapatriés. D'accord ? Donc vous voyez, ça commence mal avec mon mémorial. On a un lieu pour commémorer. Qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Il faut des dates. Ah là là ! Des dates. C'est le bazar. Encore un mot d'origine arabe. Les dates, très très compliquées. Je passe rapidement parce qu'on a de moins en moins de temps. Alors les dates, très rapidement, le gouvernement Chirac décide de faire deux commémorations. La première, c'est la journée nationale aux harkis et formation supplétive fixée le 25 septembre. Tout le monde se précipite. Non, le 25 septembre, il n'y a pas d'événement spécial pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est une date qui ne renvoie pas à la guerre. Donc on célèbre la mémoire de guerre avec une date qui ne renvoie pas à la guerre. Qu'est-ce que c'est que le 25 septembre ? Vous voyez ici, c'est la date d'une cérémonie occasionnelle qu'avait décidé Jacques Chirac en 2001 pour poser, vous voyez, une plaque honorant le sacrifice des harkis, comme vous le voyez en bas à droite, dans toute la France, notamment dans les lieux de mémoire que sont les camps. Donc c'était une cérémonie qui ne devait durer qu'une année. Et l'année suivante, Jacques Chirac dit... On va en faire une journée nationale officielle à la mémoire des harkis. Alors c'est une date très importante pour les harkis, parce que c'est la première fois, sur la plaque, on fait référence à la loi de 1994, qu'on reconnaissait le sacrifice des harkis. L'État ne reconnaissait pas son erreur et son abandon. Et vous savez que celui qui l'a reconnu, c'est François Hollande. C'est pas du tout quelqu'un de droite, d'accord ? Il l'a reconnu en 2016. Bien, mais c'est très important. Donc, c'est une date qui n'a rien à voir avec le conflit en lui-même. D'accord ? Deuxième commémoration, vous l'avez en bas à gauche. C'est la commémoration de la Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats au Maroc et Tunisie, le 5 décembre. Rien à voir avec la guerre d'Algérie. Il n'y a pas d'événement marquant le 5 décembre pendant la guerre d'Algérie. Mais, vous l'avez compris, c'est juste l'anniversaire de l'inauguration du monument du Quai Branly par Jacques Chirac. Et là, c'est intéressant. Quand on n'arrive pas à trouver une date qui renvoie à l'événement, c'est qu'il y a un problème de mémoire, et donc d'histoire. Pensez à la commémoration de l'abolition de l'esclavage en France. Vous savez tous, bien entendu, que c'est le 10 mai. Quelle drôle d'idée. Ça n'a rien à voir avec l'abolition de l'esclavage, directement en tant que tel. Si on prenait une date qui s'appuie sur la commémoration de l'esclavage, on prendrait une date en février, première abolition de l'esclavage en 1794, ou en mars-avril, je ne sais plus trop, la Seconde République, Schœlcher. Mais sûrement pas au mois de mai. Mais comme on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que c'est une question vive, l'esclavage, eh bien, on choisit le jour de la proclamation de la loi Taubira sur la mémoire de l'esclavage. Eh bien, c'est la même chose pour la guerre d'Algérie. Ces deux dates n'ont rien à voir avec le conflit, donc on choisit des dates périphériques, hein, d'autres événements liés non pas au conflit, mais à la mémoire du conflit. D'accord ? Mais ça n'est pas signifiant pour le grand public. Dernière chose, le 5 décembre, c'est la cérémonie de Jacques Chirac, c'est la cérémonie du Quai Branly, donc ça devient la cérémonie en la mémoire de la guerre d'Algérie de l'Union nationale des combattants, c'est-à-dire de l'association des combattants plutôt de droite. Et la FNACA, plutôt de gauche, rejette ça en disant « ça n'a rien à voir avec la guerre. Pour nous qui y étions, la vraie fin de la guerre, c'est le cessez-le-feu ». Donc, imaginez que la FNACA boycotte le 5 décembre. Et tous les sondages, où est-il ? Voilà, vous voyez, le sondage en bleu, c'est le nombre de personnes qui veulent une commémoration de la guerre d'Algérie. Le 19 mars, tous les sondages montrent que les Français, vous voyez, ils n'arrêtent pas d'augmenter, veulent le 19 mars. Juste une parenthèse sur ces sondages. Ceux qui veulent la célébration du 19 mars, ce sont entre autres les électeurs du Front National, à près de 80%. C'est-à-dire plus que les électeurs de Les Républicains. C'est intéressant. Les gens qui ont voulu renverser De Gaulle. Hein, bon, vous voyez que c'est compliqué la mémoire de la guerre d'Algérie. Revenons à nos moutons. Donc, deux dates pour un seul conflit, ça fait beaucoup et ça n'aide pas à une commémoration apaisée. Et puis récemment, on va conclure dans la dernière partie, on en arrive au 19 mars, à la question purement du 19 mars. Alors la question du 19 mars, pour terminer, je vais juste vous citer François Mitterrand, septembre 81, fin connaisseur de la guerre d'Algérie. Écoutez ce qu'il dit. Pour commémorer la guerre d'Algérie, on peut choisir n'importe quelle date. Sauf le 19 mars. Donc vous voyez que ça a toujours été une date problématique. Alors, le 19 mars, ça renvoie au choix de Jacques Chirac, on a vu ce que c'était, ça renvoie aussi au fait que personne ne sait, finalement, quelle date il faut utiliser. Non, je ne sais plus où il est, tant pis, c'est pas grave. Voilà, j'ai fait un petit tableau dans ce magnifique livre. Il y a 14 dates possibles pour commémorer la guerre d'Algérie. Donc vous voyez que c'est très très compliqué. La question du 19 mars, elle renvoie à tous ceux qui commémorent à une autre date que le 19 mars. Donc il y a le 5 décembre, il y a le 25 septembre, mais par exemple la gauche commémore souvent le 17 octobre 61, en hommage au massacre d'Algériens à Paris qui venaient des bidonvilles de Nanterre et autres. Il y en a d'autres qui célèbrent à gauche le 8 février, en souvenir de Charonne à Paris en 1962. Il y a l'extrême droite qui commémore en janvier, c'est les barricades d'Alger. Donc vous voyez, il y a plein de commémorations différentes, et à chacune de ces commémorations, hein, vous voyez, en bas des manifestants, il y a des manifestations extrêmement violentes. Alors, plusieurs dates, et un État qui n'arrive toujours pas à choisir. Un État qui hésite, qui dit, en 2003, vous voyez, il faut officialiser une date. Alors on va prendre celle du 5, parce que c'est la seule commémorée. Mais, dit l'État, il faut entendre que le 16 octobre et le 19 mars, donc le 16 octobre, c'est le soldat inconnu d'Algérie, et le 19 mars, gardent pour ceux qui le souhaitent leur vocation associative en tenant compte des usages locaux, y compris commémoratifs. Donc même l'État dit, c'est le 5 décembre, mais vous pouvez garder les autres. Donc vous comprenez que c'est difficile d'arriver à un consensus. Alors, je vais vite. Hein. Finalement, vous savez que l'Assemblée avait décidé, en 1998, de retenir le 19 mars. Hein. Ça avait été voté à l'Assemblée. Simplement, le Sénat était à droite et Jospin ne voulait pas le faire voter avant les élections de 2002. Il voulait que les deux tiers des députés et sénateurs le votent, ce qui était impossible. Donc il faut attendre 10 ans, hein, sous François Hollande, en 2012, pour que ça soit reconnu comme fête nationale. Parce que le Sénat, pendant 2 ans, était à gauche. Donc le Sénat a ensuite voté une loi, votée 10 ans auparavant par l'Assemblée nationale. Donc vous voyez que les conditions de création ont été aussi extrêmement compliquées. Et quand on a discuté du projet du 19 mars, le gouvernement a dit « On va créer le 19 mars, parce que c'est l'Assemblée qui le décide, mais ce texte n'a pas pour effet d'abroger la loi du 5 décembre ». Donc vous voyez, le gouvernement dit « Il y aura 2 dates ». C'est la seule guerre pour laquelle il y a 2 dates officielles. Donc ça ne peut pas marcher. J'ajouterai que le 19 mars devient la fête de la FNACA. Donc vous voyez, les associations d'anciens combattants sont divisées. Ceux de droite disent c'est le 5 décembre, ceux de gauche disent c'est le 19 mars. Mais ces 2 fêtes ont le même statut de journée nationale. Donc il y a bien 3 journées nationales pour une même guerre, ce qui encourage les polémiques. Il faut aussi ne pas oublier, je vous ai mis la petite caricature de Plantu, hein, que tous ces débats autour de la commémoration de la guerre d'Algérie ont lieu pendant des années où la mémoire de la colonisation est extrêmement compliquée. Ce sont les années de la loi de Mekachera 2005, hein, la loi Mekachera contre laquelle tous les historiens se sont élevés contre l'article 4, hein, qui prévoyait qu'on enseigne le rôle positif de la colonisation, en disant au gouvernement, merci, mais on n'a pas besoin de vous pour savoir comment parler et enseigner la guerre d'Algérie et la colonisation. Donc il y a eu un grand soulèvement, parce que vous voyez, enseigner le rôle positif de la colonisation, là on est dans la mémoire. L'histoire dit non, on va essayer de comprendre, d'expliquer. Et l'historien ne raisonne pas en termes de bien ou de mal. L'historien n'est pas un curé ni un juge. Il fait confiance au jugement de chacun, après. Mais il doit expliquer, comprendre. Mais on n'a pas à recevoir d'ordre en tant qu'historien. On sait comment faire, merci, d'un gouvernement. Ou alors ça rappelle des précédents fâcheux, un gouvernement qui dit comment faire l'histoire. Donc vous voyez, c'est pendant toutes ces années-là que sont discutées les questions des commémorations de la guerre d'Algérie et du 19 mars. Il y a eu 9 propositions de loi de la gauche et de la droite pour créer le 19 mars. Le gouvernement a adopté une position extrêmement audacieuse. En 2002, écoutez ce que dit le rapporteur de la loi sur le 19 mars. C'était juste avant les élections, donc c'était encore un gouvernement de gauche. Le choix de cette date, le 19 mars, n'a pas pour vocation de nier la poursuite des combats avant le 19 mars, ni d'opérer un tri entre les victimes, pas plus que cette journée ne célèbre la fin des combats. Donc vous voyez que d'un point de vue historique, le gouvernement avait fait un pas vers une reconnaissance du fait que la violence continue après le cessez-le-feu. Donc, et contrairement à ce que disent ceux qui s'opposent au 19 mars, la commémoration du 19 mars n'est pas comprise comme étant la négation des violences après le 19 mars. C'est en tout cas ce que disait le gouvernement en 2002. Seulement, quand le projet a été confirmé par le Sénat en novembre 2012, le contexte était différent. On a entendu au moment du projet de loi de 2012 des gens évoquer la notion de génocide pour la guerre d'Algérie, les guerres de Vendée, la Seconde Guerre mondiale. Donc ce qui était à peu près consensuel dans les années 2000 ne l'est plus dans les années 2010. Il n'en reste pas moins que sur le terrain, une 3e date est créée le 19 mars. Alors vous voyez que certains maires, ici Christian Estrosi, le maire de Nice, premier représentant de l'État en France, dans toutes les communes, refuse de commémorer le 19 mars, alors qu'ils sont tenus d'appliquer la loi. Donc c'est une commémoration qui pose problème. Une commémoration originale, un cérémonial classique, hein, le préfet, les drapeaux, les gerbes, mais des spécificités. Beaucoup de messes le 19 mars. Pourquoi ? Parce que la religion est devenue une composante de l'identité des rapatriés. Donc il y a beaucoup de messes. Il y a aussi des chansons un peu spéciales, notamment quand la FNACA est importante. Dans un tiers des cas, on chante « L'Algérie » de Serge Lama. Une chanson qui parle des appelés, de la peur de mourir désappelé. Vous voyez, ça change de la stricte marseillaise. Mais quand on est dans une commune qui ne veut pas célébrer le 19 mars, qui célèbre le 5 décembre, ou pire, les journées du putsch, eh bien, on chantera « C'est nous les Africains », qui serait en quelque sorte l'hymne de la commémoration de la droite, voire de l'extrême droite. Donc vous voyez que ce sont des commémorations un petit peu spéciales. Ce qu'il faut retenir aussi, que ce sont des commémorations, surtout, qui voient les affrontements se multiplier. Je vous ai mis plusieurs photos. Alors, au nord comme au sud, le plus au sud, parce qu'il y a beaucoup de rapatriés, la mémoire de la guerre d'Algérie est importante, mais aussi au nord, le maire de Hayange, etc., que je sache, je ne sais pas, sur la Méditerranée. D'accord ? Donc, des manifestations, des changements, des guerres de mémoriaux aussi. Il faut imaginer qu'il y a des mémoriaux de la FNACA aux victimes de la guerre d'Algérie, mais il y a aussi des mémoriaux dans des communes de l'OAS puissantes, à la gloire, comme vous le voyez à gauche, des fusillés de l'OAS par la République française. Ici, cimetière de Perpignan, vous avez la même chose dans le cimetière de Béziers. D'accord ? Donc vous voyez que, malgré ces trois dates, il y a des commémorations de tous bords qui, à chaque fois, dégénèrent en incidents. Ben, vous comprenez que, sur ce socle, il est difficile d'avoir une commémoration apaisée. En conclusion, parce que le temps passe, je dirais que c'est compliqué. Vous l'avez compris. Parce que ça renvoie à la mémoire de la guerre d'Algérie, mais aussi à la mémoire coloniale. Et je ferai mien le mot de De Gaulle. De Gaulle disait « La guerre d'Algérie, c'est une boîte à chagrins ». Il n'y a que des chagrins pour la guerre d'Algérie. Donc c'est compliqué de commémorer ces chagrins. C'est compliqué de commémorer parce qu'il ne faut pas confondre, je ne reviens pas là-dessus, histoire et mémoire. Or, souvent, on a tendance à confondre les deux, à appeler histoire de la guerre d'Algérie ce qui n'est que des mémoires, par définition partiale et militante. C'est la définition même d'une mémoire. Donc il faudrait arriver à s'extirper de ces mémoires. S'en servir, l'historien travaille sur les mémoires, utilise les mémoires, mais les mettre en perspective, les prendre toutes et non pas en privilégier une par rapport à une autre. Ça renvoie aussi à ce qu'on appelle la guerre des mémoires. C'est ma communauté qui a plus souffert que la tienne. Donc ça, ce n'est pas de l'histoire. Mais dans la tête des gens, il y a cette confusion. C'est quelque chose qu'il faut étudier parce qu'il y a une demande sociale. Tous les sondages montrent, notamment chez les jeunes, qu'on aimerait bien parler de la guerre d'Algérie. Une guerre qui est dans les programmes. Mais c'est difficile. L'éducation nationale ne peut pas à elle seule traiter de tous les problèmes mémoriaux, d'une part, et elle ne peut pas à elle seule faire le point sur la guerre d'Algérie. Donc il faut que ça vienne de l'ensemble de la société. Mais c'est un enjeu extrêmement important. Si on fait le compte de ceux qui ont participé côté français à la guerre d'Algérie, de leurs descendants, mais aussi de tous les Algériens qui se sont installés en France, qui ont fait souche, etc., ça représente cette mémoire algérienne une partie énorme de la France, y compris de la France de demain. Donc il est important de travailler sur cette mémoire et la commémoration doit être un moyen pour se poser des questions à travers ces trois dates, mais pour essayer d'avoir un discours historique. Et puis, je dirais, la mémoire, ça renvoie de la guerre d'Algérie, ça renvoie à la colonisation, ce qu'a été la colonisation. Comment il faut parler de la colonisation ? Ça renvoie à ce que mon collègue Blanchard appelle la culture post-coloniale. La France est le seul grand pays colonisateur qui n'a pas de musée de la colonisation. Il y a des musées locaux, mais il n'y a pas de musée national. Ça a été un impensé pendant très longtemps. Et moins on parle d'une chose, que ce soit la guerre d'Algérie, que ce soit la colonisation, plus on alimente la boîte à fantasmes, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Donc si on ne veut pas que les gens disent n'importe quoi sur la guerre d'Algérie, il faut en parler, il faut s'en emparer, pas seulement à l'école ou à l'université. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et puis, ça renvoie à la notion de repentance. C'est un mot que vous avez déjà entendu, la repentance. Mais moi, je suis allé au caté, je sais ce que c'est, la repentance. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est un concept religieux. C'est un mot religieux. On regrette une faute. Mais ceux qui ne veulent pas qu'on parle de la guerre d'Algérie sous l'angle historique nous accusent, nous, historiens, de vouloir faire de la repentance. C'est-à-dire de demander pardon pour ce qu'ont fait nos arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. Tous les historiens disent que ça n'a aucun sens de demander pardon en tant qu'individu pour ce qu'ont fait nos aïeuls. Donc aucun historien sérieux ne veut faire de la repentance. Mais quand on veut délégitimer ça, on dit, vous historiens, vous voulez vous excuser pour ce qu'on a fait, etc., mais vous vous rendez compte, la mission civilisatrice. Non, on ne demande pas de la... on demande de la compréhension. Mais comme nous sommes des gens subtils, nous historiens, on dit effectivement, à titre individuel, ça ne veut rien dire de demander pardon pour ce qu'ont fait nos aïeux. C'est anachronique, ça n'a aucun sens. Mais en tant qu'État, on peut demander qu'un État, c'est un appareil d'État, c'est politique, pas les individus, reconnaissent avoir fait des erreurs et quelquefois même puissent demander pardon à un autre État. Je n'ai pas dit les citoyens, j'ai bien dit les États. Quand ce sont les Allemands qui font ça, quand l'État allemand s'excuse auprès de l'État d'Israël, on trouve ça très bien. Quand l'État allemand s'excuse auprès de la Namibie pour le massacre, le génocide des Herero en 1904, on trouve ça très bien. Quand l'État hollandais s'excuse pour la répression de 1947 en Indonésie, on trouve ça très bien. Ah, mais quand c'est la France, c'est plus bien. Il faut être cohérent. Mais pour ça, il faut bien expliquer que ce n'est pas de la repentance, c'est de l'histoire. Et il faut bien différencier un appareil d'État avec des citoyens. Et je vous mettrai pour terminer la dernière petite caricature. Ça renvoie aussi à ça, la guerre d'Algérie et la colonisation. Qu'est-ce que c'est que la France aujourd'hui? Quelle est l'identité française? Y a-t-il une identité française intemporelle? Bien non. Tous les historiens, tous les géographes ont bien montré que la population française est composite. Et elle intègre évidemment les descendants de la colonisation. On pourrait faire l'histoire de l'équipe de France comme ça, avec les différentes générations. Quand les étrangers, quand les Rital s'appellent Platini, on trouve ça très bien. Hein? Quand les Bougnoul s'appellent Zidane, on trouve ça très bien. Parce qu'ils nous font gagner. Donc vous voyez, il faut se mettre au clair pour tout ça. Mais il faut sortir des mythes d'une identité française, gauloise, intangible, qui ne devrait pas changer. À l'ère des migrations, c'est encore moins possible qu'au XIXe siècle, où déjà la population française était composée. Donc ça renvoie à tout ça. Tout ça, ce sont des problèmes mal expliqués, instrumentalisés, comme l'est la guerre d'Algérie et comme l'est la commémoration. Je vous remercie.